Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Paralysie des activités socio-économiques ce jeudi à Bunia en Ituri. À la base, des jeunes du quartier Sayo ont manifesté pour protester contre le meurtre de l'un des leurs par un policier. En représailles, les manifestants ont pillé des boutiques. Fin ce jeudi de la session ordinaire de l'examen d'État en RDC, nous serons à ces sujets à Lubumbashi où certains participants à l'épreuve se sont déjà déclarés d'ores et déjà satisfaits de leurs prestations. Notre invité, c'est le directeur de Pôle Institute. Le professeur Néné Morichaud affirme que sa structure vient d'organiser cette semaine à Goma, au Nord Kivu, un colloque international sur l'adhésion de la RDC à l'EAC. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Polydor Basunga. Les activités socio-économiques sont restées paralysées ce matin à Bunia, en Ituri. De jeunes du quartier Sayo ont manifesté sur les principales artères de la ville pour protester contre la mort de l'un des leurs qui a été tué par un policier. Les manifestants ont pillé des boutiques. Le chef du quartier Sayo a appelé au calme en raison des risques de dérapage au moment où certains finalistes et du secondaires qui ont terminé la session ordinaire de l'examen d'État étaient en liesse. À Bunia, le récit d'Ezekiel Mouzalia.
La ville de Bunia a connu dans la matinée une forte tension née de la mort d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Selon des informations que nous avons recueillies de diverses sources, ces derniers revenaient d'une veillée mortuaire lorsqu'il est tombé sur une patrouille de police qui recherchait des bandits armés. Après une brève altercation, un policier a tiré sur le jeune homme mort sur les champs. Des jeunes en colère sont alors descendus dans les rues pour protester contre cet acte. La police a fait usage des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Plusieurs boutiques ont momentanément fermé leurs portes, d'autres ont été vandalisées, ce qui a créé une psychose dans la zone. Nduru Kidiasaki condamne ces actes qui pourraient affecter le déroulement des examens d'État. Il invite les populations au calme en attendant les résultats de l'enquête de la police. Nduru Kidiasaki.
La situation est tellement très compliquée parce que moi-même, quand j'avais reçu la nouvelle, je suis descendu, c'était pour me prévenir de la situation. Et maintenant, à l'heure qu'il est, bon, ils doivent être assistés avec les autres jeunes venant des autres quartiers. Oui, mais ce que j'aurais à adresser à la population, c'est de garder le calme, parce que l'État est ouvert, l'État va s'occuper de tout ce qui s'est passé.
Nous n'avons pas encore la réaction de la police à ces sujets. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
À Butembo, dans la province voisine du Nord Kivu, la prison centrale de Kakwangura abrite plus ou moins 90% des détenus dont les jugements traînent toujours. Conséquence, il y a des décès signalés suite à la mauvaise prise en charge alimentaire et sanitaire. Le directeur de cette prison plaide pour le désengorgement de cette maison carcérale. Nord Kivu, encore, la cellule africaine d'explosifs vient d'achever sa mission de prise des contacts avec les autorités provinciales. Les inspecteurs de cette cellule ont échangé mardi dernier avec le maire de Beni sur la nécessité qu'il y a de lutter contre les explosifs. C'est ce que nous explique à Beni Marc Marofimo.
Cette cellule composée d'une unité détachée de forces armées de la République démocratique du Congo a pour objectif de sensibiliser la population sur les dangers des explosifs pour s'en débarrasser. Selon le chef d'antenne d'Africaine d'exposition au Nord Kivu, débarrasser la population de toutes sortes d'explosifs pourra contribuer à la sécurité des habitants. Ceci devait d'abord commencer par une forte sensibilisation avec toutes les parties prenantes. C'est ce qu'a indiqué le colonel Fulgence Aokwe Goto, chef d'antenne d'Afridex au Nord Kivu. Il a souligner certaines exceptions dans l'usage d'explosifs par des entreprises habilitées. Signalant que cette même sensibilisation aura lieu également à Butembo et dans les communes de la partie sud de la province du Nord Kivu. C'est en partenariat avec les autres compagnies partenaires dans la lutte contre les explosifs actives dans la région.
Merci Babel Mpongo Massimango, vous qui avez rendu le reportage de Marc Marofimbo. Et puis les habitants affectés par les conflits armés dans les territoires de Massissi au Nord Kivu sont menacés ces jours-ci par les mines et restes explosifs de guerre. Ce constat a été fait par le Bureau des actions de développement et des urgences. Cet aspect qui est financé par le service de lutte anti-mine des Nations Unies a lancé hier à Sake un projet de sensibilisation contre ces menaces. Pour en parler, retrouvons à Goma Bernard Nyangi.
Le projet intitulé « Action durable contre les mines et restes explosifs de guerre en faveur des retournés et déplacés dans le groupement de Kamuronza » intervient pendant ce moment où la zone va entrer dans une nouvelle saison culturelle, affirme un cadre du pouvoir coutumier de Kamuronza. Pour M. Douglas Batachoka, après les derniers événements de guerre entre l'armée congolaise et la rébellion du 23 autour de la cité de Sake, certains habitants qui avaient fui commencent à retourner dans leur village. Mais se fait-il qu'il y ait dans leur champ, où il y avait des positions militaires, la probabilité d'y retrouver des restes explosifs de guerre abandonnés ça et là? Ainsi donc, ce projet de 4 mois vise à sensibiliser les populations déplacées retournés qui ont été affectés par la guerre contre les menaces que représentent ces engins. Aussi, UNMAS a-t-il mis en place un système d'alerte précoce avec un numéro vert, le 081 355 1963, où des appels seront passés gratuitement. Tout le temps qu'un objet suspect est découvert dans le village, l'alerte sera faite et les agents de UNMAS passeront pour le déminage dans le cadre du dit projet. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
En Ituri, le gouverneur de province a réceptionné ce matin le nouveau bâtiment de la justice militaire construit par la MONUSCO avec 69 000 dollars américains. Objectif affiché, améliorer les conditions de travail des magistrats militaires. Le chef de bureau de la MONUSCO dans cette province affirme que ce projet marque ainsi l'engagement d'accompagner les autorités provinciales. La correspondance à Bounia de Jean-Claude Lokidile.
Cet ouvrage de 37 mètres de longueur et de 7 mètres et demi de largeur, qui est divisé en 2 compartiments, est doté de 8 salles et de 2 toilettes. Le colonel magistrat Joseph Makelele, auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri, affirme que c'est le fruit d'un plaidoyer adressé à l'ONU pour améliorer les conditions de travail des autorités judiciaires militaires.
Par rapport aux conditions matérielles, il y avait promiscuité. Nous étions obligés d'être à plusieurs dans un même cabinet de magistrats. Nous avons entamé un plaidoyer auprès des Nations Unies qui ont vu dans quelles conditions nous travaillons. Et c'est ainsi que nous avons ce bâtiment qui est offert aujourd'hui. Et nous pensons plutôt que par rapport à la qualité du travail, ce qu'on peut attendre du magistrat, il n'aura pas ses plaintes par rapport aux conditions de travail.
Le chef des bureaux de la MONUSCO en Ituri a égrené à l'attention des autorités présentes la liste des réalisations de la mission onusienne en RDC en faveur des institutions judiciaires en Ituri. Et pour sa part, le lieutenant général Johnny Duboya, le gouverneur de l'Ituri, apprécie à sa juste valeur cet apport de la MONUSCO, notamment dans la recherche d'une paix durable en Ituri, avant d'émettre le vœu de voir, je cite, le droit qui sera dit dans ce nouveau bâtiment puisse répondre à l'intérêt supérieur d'un état de droit et non pour des faits individuels. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile Radio Cap.
L'actualité, c'est aussi la fin ce jeudi de la session ordinaire de l'examen d'État sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. À Lubumbashi particulièrement, certains participants se déclarent d'ores et déjà satisfaits de leurs prestations pendant l'épreuve. Ils se sont confiés à Jean Ganduka Bongo.
Ça s'est très bien passé, les questions étaient vraiment abordables, on s'est très bien débrouillé.
L'examen s'est aussi bien passé, les questions étaient abordables.
Vous comptez avoir combien de points?
70. Moi, je suis une fille assez optimiste, hein. Donc moi, je me mets dans les 80.
80. Je pense que les examens étaient assez abordables pour moi. Je ne vois pas vraiment le plus compliqué, à part le jour de science peut-être.
Il n'y a pas eu des examens compliqués parce que plus on a étudié à l'école, plus on a eu la capacité de répondre.
Il n'y a rien eu de compliqué parce qu'à l'école, on nous prépare avec 1000 munitions, mais sur place, on n'a besoin que de 10 en fait, donc il n'y avait rien de difficile pour moi.
Je remercie mes parents parce qu'ils ont été là pour moi, ils m'ont soutenu, ils m'ont fait confiance et ils m'ont scolarisé jusque-là. Je suis reconnaissante envers eux.
J'aimerais juste dire merci aux parents de nous avoir supportés avec tous les frais qu'ils devaient payer.
Moi, je dis un grand merci à mes parents qui ont toujours été là pour moi et ma grand-mère aussi et toutes les personnes qui ont été présentes pour moi, mes amis aussi, et qui ont pu nous aider à aboutir et à terminer cette année.
Autre nouvelle sur Radio Capi ce soir, contribuer efficacement à la lutte contre l'usage des drogues et autres stupéfiants, c'est l'objectif de la projection du film et documentaire intitulé Les Oubliés ce jeudi à l'Institut français de Bukavu. Par cette activité culturelle, le coordonnateur de l'Organisation pour la promotion agro-pastorale et le développement au Congo appelle à la prise en charge des toxicomanes. Emmanuel Kanyuri s'est confié à Rachel Kiesembangu.
Nous avons pensé faire la projection de notre film documentaire Les Oubliés parce que, comme vous pouvez le constater, les usagers des drogues sont une population marginalisée, délaissée et abandonnée à son triste sort. Nous, par ce film, nous voulons montrer à la face du monde que ces gens nécessitent notre soutien. Ce sont des gens comme nous et quand on tombe dans l'addiction, on souffre, on est malade comme tout le monde et on doit être pris en charge d'une façon médicale, mais aussi d'une façon sociale. À travers cette projection, nous voulons faire prendre conscience à la population et aux autorités, mais aussi à d'autres organisations qui sont dans le développement aussi de Kivu, qui a un problème. Il y a une catégorie de personnes qui est oubliée et qu'ils doivent s'investir, parce que s'ils ne s'investissent pas, demain, ça serait tard. Ces gens ne bénéficient d'aucun programme de prise en charge, d'aucun soutien social. Ils n'ont pas droit aux soins de santé primaire. Et c'est à cette journée que les gens doivent voir comment penser aussi à ces gens.
Jeff Ngoy, journaliste de Radio Okapi, a été libéré ce matin au lendemain de son arrestation avec d'autres journalistes de Kinshasa dans la commune de la Gombe par les agents de la détection militaire des activités antipatrie des MIAP. Jeff Ngoy était en train de récolter avec d'autres confrères des informations sur une affaire de parcelles opposant le ministère de l'Urbanisme et Habitat à Monsieur Tshibangu, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, s'est dit choqué par l'attitude des forces de sécurité qui ont interpellé les journalistes. Gabi Kouba a été joint par Fulbert Balolagué.
L'Union nationale de la presse du Congo se réjouit aujourd'hui de la libération de notre confrère Jeff Ngoy de la Radio Okapi, qui a été interpellé avec d'autres confrères dont Marie-Louise Mbella et son caméraman de la Radio-Télévision nationale. Le seul péché qui a été commis par les professionnels des médias était de se rendre à Gombe pour recueillir les informations concernant la dispute d'une parcelle entre le ministère de l'Urbanisme et Habitat et Monsieur Tshibangu. L'Union a été totalement choquée et désagréablement surprise par l'attitude des éléments des forces de sécurité qui ont interpellé nos confrères avec une brutalité inouïe. Nous attirons l'attention des autorités pour que de tels actes ne se reproduisent plus vis-à-vis des professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Sur ce, nous attirons l'attention des autorités sur les traitements réservés aux journalistes lors de la couverture de certains événements.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, l'autorité de régulation des médias publics a décidé de suspendre la chaîne française d'information en continu LCI pendant une durée de 3 mois après les propos tenus par une journaliste sur la situation liée aux violences djihadistes et qualifiées de fausses informations. Bien plus, tous les bouquets de tout distributeur des services audiovisuels à péage sont également concernés à compter de la notification de cette décision, indique le Conseil supérieur de la communication dans un communiqué publié ce matin. Et puis, le procès de Jair Bolsonaro a repris ce jeudi devant la justice électorale brésilienne. C'est un rendez-vous capital pour l'ex-président d'extrême droite qui est menacé de 8 ans d'inéligibilité à peine 6 mois après avoir, la mort dans l'âme, quitté le pouvoir.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur de Pôle Institute. Le professeur Néné Morichaud affirme que sa structure a organisé cette semaine à Goma, au Nord Kivu, un colloque international sous l'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est EAC. Il s'entretient à ces sujets avec Bernard Nyangi.
Professeur Néné Maurice, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste Bernard.
Pour l'Institut, c'est vient de commencer un colloque international de 2 jours où vous parlez de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est, défis, opportunités et enjeux. Pourquoi ce thème?
Chaque année, nous organisons cet événement d'une grande importance pour l'Institut, mais aussi pour notre pays et pour la région. Chaque année, nous essayons de voir une thématique qui a trait avec la gouvernance politique, gouvernance sécuritaire, gouvernance économique aussi. Et pour cette année, nous avons estimé qu'il était intéressant de créer un espace de débat sur la problématique de l'intégration de la RDC dans l'East African Community. Parce que, vous voyez, depuis plus d'une année, la RDC est membre de ces regroupements sous-régionaux, mais on n'a pas encore de débat au niveau de la société congolaise pour analyser et réfléchir ensemble sur les défis de cette nouvelle intégration économique, mais aussi sur les opportunités que cette intégration offrirait à notre pays. C'est dans ce sens-là que nous avons décidé de créer ce cadre de discussion où le participant, dont la majorité est congolaise, bien évidemment, parce que c'est une thématique qui les concerne tout d'abord, mais aussi des participants venant d'autres pays de la région, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, mais aussi en dehors de la région. Nous avons des gens qui participent online avec la technologie actuellement, à partir de l'Allemagne, de la France et de la Belgique.
Pourquoi avoir mis ce thème sur le plan international?
Parce qu'un croisement de regards est toujours important. Parce que nous-mêmes, Congolais, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper. Peut-être qu'on peut faire une analyse un peu subjective et émotive, parce que ça nous concerne au premier abord. Mais les autres qui ne sont pas congolais peuvent avoir un regard différent, ils peuvent nous aider dans nos analyses. Et ça a toujours été ça l'approche de Paul en organisant le colloque.
Aujourd'hui, quand on parle de l'EAC, par exemple à Goma, on voit surtout la force régionale de l'EAC, donc l'EACRF. Et donc, ce qu'on voit comme image de l'EAC, c'est une organisation qui est au cœur actuellement de tout ce qui est problématique sécuritaire dans notre région. Est-ce que vous pensez aussi toucher à ça ou bien vous êtes seulement sur l'économie?
C'est tous ces défis-là. Ça, c'est juste un aspect qui sera touché pendant ces 2 jours de colloque. L'aspect sécuritaire, parce qu'on ne peut pas le cacher. Il faut reconnaître que une grande partie des problèmes sécuritaires que nous connaissons à l'Est, la RDC, a pour origine le pays voisins à l'Est de la RDC, qui sont membres de l'EAC. Vous venez de parler de cette force qui est ici, dont l'objectif était exactement de combattre tous les groupes armés, en premier lieu les M23. Mais on se rend compte que voilà, les M23 est toujours là, les problèmes sécuritaires est toujours là. Donc ça, c'est un des points qui seront abordés pendant le colloque. Il y a aussi tous les aspects économiques. L'intégration de la RDC dans l'EAC n'est pas concernée seulement par ces volets sécuritaires. Il y a les volets économiques qui est très important. Il faut reconnaître que la partie Est de la RDC est déjà intégré de fait dans cette partie est du continent. Entre Goma, Bukavu, Lubumbashi même et Ituri, le commerce régional, c'est pas avec l'Angola, c'est pas avec le Congo-Brazza, mais une grande partie de l'est du pays commerce avec l'est du continent. Et l'est du continent, je vois l'EAC, je vois le COMESA. Donc, de fait, la RDC est déjà intégrée dans cette communauté sous-régionale. Il suffit maintenant de réfléchir très stratégiquement en tant que pays, devant ces faits accomplis, comment nous nous organisons pour tirer profit de cette formalisation de l'intégration régionale dans l'East African Community. Comment nous nous préparons en tant que pays? Nous connaissons le point industriel du Kenya. Si nous ouvrons tout de suite les frontières, quel serait le risque économique à prendre? Est-ce que nos entreprises vont résister à la concurrence de ces entreprises provenant de l'East African Community? Voilà un certain nombre d'aspects, des questions qu'il faut mettre sur la table qui doit faire l'objet des discussions et des débats. Et ça, ça n'avait pas encore eu lieu au niveau de la société civile. Je pense qu'avec ces colloques, c'est un débit.
Après ces analyses, quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous attendez qui peut sortir de ce colloque après les 2 jours?
Nous avons la chance d'avoir des acteurs avec des profils très divers, de vrais experts. Nous espérons qu'un travail d'engagement politique sera fait après, des plaidoyers auprès des autorités pour leur dire voilà, nous nous sommes rencontrés pendant 2 jours à Goma et voilà ce qui est ressorti en termes de recommandations sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et politique, sur le plan culturel.
Professeur Néné Maurice, merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur de Paul Institute. Le professeur Néné Maurice faisait la restitution d'un colloque international qui a été organisé cette semaine à Goma, au Nord Kivu, à propos de l'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est EAC. Il s'est entretenu avec Bernard Danyangi et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.